Radio Cité Genève, Viviane DeWitt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont, il y a une douzaine d'années, j'avais fait l'un de mes feux sacrés pour les Monts Bleus, une émission. Et aujourd'hui, on retrouve Philippe Dur. Bonjour Philippe.
Bonjour Viviane.
Alors Philippe, tu es constructeur de bateaux, tu es réparateur, tu es collectionneur de vieux bateaux, tu es collectionneur de titres de champion de voile. 7 titres de champion du monde, on t'appelle le seigneur du lac. Mais je voudrais savoir, quel petit garçon étais-tu ?
Alors, j'avais une grand-mère que je me suis rendu compte beaucoup plus tard que t'es extraordinaire. Parce qu'elle avait une location de bateaux au Creux de Gentot et qu'elle avait 40 bateaux. Ce n'était pas les 40 voleurs, mais c'était 40 bateaux de location.
Alors c'était rame, des bateaux à rame, des barques.
C'est pas juste le mot barque, c'est des canaux. Barques, c'était pour transporter les cailloux, pour reconstruire Genève ou les ports. Ça, c'est le vrai nom de ces
canaux,
bateaux.
D'accord.
C'est des barques de mairie, on appelait ça. Mais les bateaux, comme ma grand-mère avait, ce sont des canaux en bois. À rame, des fois deux rameurs. Elle en avait 40. Et moi, chaque fois que je pouvais aller voir ma grand-mère au Creux de Gentot, eh bien, j'allais là-bas et je lui donnais un coup de main pour les amener sur la grève, préparer le petit coussin pour les dames, mettre les rames en place, donner la main aux dames pour quand elles montent à bord.
Mmh.
Et je poussais le canot pour qu'elles
partent. Mais t'avais quel âge quand tu faisais tout ça?
J'avais 8 ans.
Ah oui, déjà ouais. Très jeune, tu donnais la main aux dames.
Et la récompense était que quand j'avais bien travaillé, le soir, j'avais le droit de traverser la propriété Firminich pour aller voir l'arrivée des régates, où il y avait la semaine de la voile, et où il y avait justement le fameux Louis Novera, qui était un grand champion international, qui était champion olympique. Et moi, j'étais fasciné par ces bateaux qui arrivaient en régate, et c'est certainement là que j'ai eu cette envie de aussi faire de la voile et aussi de faire des régates, et aussi de devenir un champion.
Mais quand tu étais tout petit, donc, parce que 8 ans, c'est très jeune quand même.
Oui, j'étais même avant, mais disons que je pense que c'est là que j'ai tout appris. Ma grand-mère, elle était tranquille. Elle m'a aimé, elle m'a appris à aimer l'eau. Elle m'a aimé.
Elle t'a emmené nager dans le lac aussi ?
Pardon ?
Elle t'a emmené nager dans le lac ?
Oui, c'est là que j'ai tout appris. À aimer l'eau, à aimer le lac, à apprendre à nager, à apprendre à ramer, et à aimer les bateaux. Alors, chaque hiver...
C'était une grand-mère assez moderne hein, quand même, si elle t'apprenait à nager.
Elle vivait seule. Son époux, mon grand-père est mort quand elle était jeune. Mon père avait 8 ans quand elle perd son mari. Donc
ah oui.
Voilà, c'est une grand-mère qui a vécu assez seule.
Tu aimais beaucoup ta grand-mère.
Oui, oui, oui. Ben oui, parce que mais ce qui est fou, c'est que c'est des années plus tard qu'on se rend compte que c'était exceptionnel. Quand je dis ça maintenant à mes copains, j'ai dit non, t'avais une grand-mère qui avait 40 bateaux. Non mais c'est fou. Maintenant,
oui,
quand on arrive à en avoir un ou deux, c'est déjà exceptionnel, mais 40...
Oui, mais 40, il fallait les entretenir, il fallait les nettoyer, il fallait... Pouf, c'est un boulot de dingue.
Alors, au 1er août, on en brûlait un.
On en brûlait un ?
Oui, on prenait le plus vieux, qui était en fin de vie, pourri. Et puis ça, c'était on le mettait sur le feu du 1er août.
Ah d'accord.
Et moi j'étais gamin et je regardais le bateau qui brûlait, j'étais impressionné. Et ma grand-mère me disait, mais fais-toi pas de soucis, on va en construire un cet hiver. Alors moi j'étais tout content. Et c'est certainement ce qui m'a donné l'envie de construire des bateaux après.
Mais alors, qui construisait les bateaux pour ta grand-mère à l'époque ?
Alors ma grand-mère avait un ami qui s'appelait Arthur Muller. Et j'ai passé presque toute mon enfance avec ce monsieur aussi. Et c'est lui qui m'a tout appris à utiliser un rabot, une perceuse, plier des courbes à la vapeur. Et moi, j'étais toujours dans l'atelier, j'avais mon petit endroit avec mes 2-3 outils. Et puis, je le regardais construire, je lui donnais un petit coup de main. Et puis, au printemps, on remettait le bateau qu'on avait construit pendant l'hiver.
Ça, c'est un beau souvenir pour toi. Tu as les yeux qui brillent en parlant de ça.
C'est fou, en fait. C'est toujours... qu'est-ce qui fait qu'on a des déclics dans la vie? Quelle est la personne qui vous donne envie de travailler? J'ai réfléchi à ça. Quelle est la personne qui a envie de vous, qui vous donne la niaque au boulot? Il y a des gens, quand vous les observez, vous êtes gamin, vous vous rendez compte de ça plus tard. Celui-là, mon père me dit, tu vois, ça c'était un travailleur, c'est un bon travailleur. Eh bien, c'est en observant ces gens que moi j'ai toujours eu envie d'aller travailler. Moi je me réjouissais le lendemain que je me réveille pour aller au travail. Toute ma vie, j'ai travaillé 52 ans. Il n'y a jamais une fois où je n'ai pas eu envie d'aller travailler. Jamais. C'était toujours, je me réjouis d'y aller.
Philippe, on reste avec le petit garçon. à l'école, ça marchait ou t'avais pas du tout envie d'être à l'école?
Alors j'étais pas bon en fait à l'école.
Non, ça t'ennuyait?
Non, en fait j'étais bon en dessin. J'étais bon en géographie. Ouais, géographie pas mal.
Ça peut servir quand tu dois courir le monde, la
oui,
géographie.
En maths, ça allait, français nul. Et quand j'étais dyslexique, donc ça pose des problèmes pour au début. Parce que dyslexique, c'est pas bon. Donc j'allais voir un monsieur qui m'a corrigé ça, mais du coup, on est en retard.
Enfin, l'école, c'était pas ton truc.
J'ai appris très tard. Donc, du coup, tout ça a fait qu'on ça retarde.
Bon, t'as quitté l'école à quel âge, alors?
16 ans.
Ah bah, normal, alors. T'as pas quitté avant.
Après, j'ai commencé l'apprentissage à 16 ans.
Oui. Donc, un apprentissage comme un menuisier, au fond.
Non,
un charpentier. Non?
Non, j'ai fait... oui, le vrai nom, c'est charpentier de marine, mais chez nous, on appelle ça constructeur de bateau. J'ai fait l'apprentissage de constructeur de bateau. Avec un monsieur extraordinaire, je pourrais te raconter l'histoire, si tu veux. On a le temps.
On va peut-être écouter d'abord, avant de rentrer là-dedans, parce que ça, c'est une longue histoire, d'accord?
Oui, surtout qu'elle est fantastique.
On va peut-être d'abord écouter un peu de musique.
Allez, allons-y.
Allez, qu'est-ce qu'on écoute?
Et on va écouter Ray Charles.
Et alors?
En fait, Ray Charles, il dit des choses assez extraordinaires, mais j'ai appris que Ray Charles n'était pas très gentil avec ses épouses.
Ah bon?
Donc, peut-être
c'était
que
pas
moi...
un féminicide quand même.
Ben, peut-être que moi aussi, j'ai pas été gentil.
Ah bon?
Oui, parce que...
attends, tu vas pas nous raconter ça maintenant. À tout à l'heure, on écoute Hit the Road, Jack.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Philippe Dur. Philippe Dur, constructeur de bateaux, plein de casquettes, réparateur, collectionneur de vieux bateaux, et on l'a dit aussi tout à l'heure, collectionneur de titres de champion de voile, on va voir ça tout à l'heure. Alors, on t'a quitté au Creux de Gentau, tu as 16 ans, tu commences un apprentissage de constructeur de bateau, donc tu appelles ça comment? C'est constructeur de bateau, c'est bien ça?
Oui, en bois.
Oui. En bois. Donc à l'époque, il n'y a que des bateaux en bois à l'époque ou il y en avait déjà en...
Ça commençait les bateaux en plastique.
En plastique. En plastique, et j'ai retenu une chose, c'est que tu les appelais c'est les Tupperware, les bateaux en plastique, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça.
Bon, alors on revient au bateau, donc tu apprends, et là tu restes combien de temps en apprentissage?
C'est 4 ans.
4 ans, et tu sors, et là tu reprends 16 ans, 20 ans, non je crois que c'est à 24 ans que tu reprends l'atelier de ton père.
Pas tout à fait, non, après j'ai fait l'armée, dans les pontonniers navigateurs, alors ça m'a appris à naviguer dans les rivières, l'art par exemple, C'était une belle expérience, naviguer pas forcément sur des lacs, mais sur des rivières.
Alors quel genre de bateau c'était là-dessus?
On appelait ça des nacelles.
Des nacelles.
Et on ramait, ça ressemble à des bateaux qui sont à Venise, où on rame avec une rame de côté.
Ah d'accord, comme les gondoliers.
Exactement.
D'accord.
Et
l'armée à ces bateaux-là?
Pardon?
L'armée suisse à ces bateaux-là?
Oui.
Elle les avait ou elle les a encore?
Oui, parce que les pontonniers, ils fabriquaient donc les ponts à travers la rivière. Et les premiers qui arrivaient sur place, c'était les pontonniers, pour tirer des câbles en travers de la rivière, de façon à installer les sapeurs-sonnettes, qui plantaient, eux, les pieux.
Les sapeurs-sonnettes.
Voilà. Les sapeurs-sonnettes, c'est ceux qui plantent les pieux, les arbres, dans la rivière. Tous les 12 mètres, ils mettaient 4 pieux. Et le lendemain, arrivaient les sapeurs qui fabriquaient le pont.
D'accord.
Donc voilà. Donc et après nous on faisait la sécurité. Donc moi j'ai eu la chance encore à l'époque qu'on fabriquait le pont en bois. On appelait ça le pont d'Inne. Donc c'était tout en bois.
C'est ce que j'allais dire, c'était tout bois. D'accord.
Exactement.
Donc ce que tu avais appris était extrêmement
donc,
utile.
Voilà. Donc c'était une bonne expérience. Après j'ai travaillé chez Lutti parce que je voulais apprendre à faire du bois moulé. Et puis, donc, bois moulé, c'est du bois collé, croisé. Mmh. Donc, j'ai travaillé 3 ans chez Lutti. Là, on a fabriqué le fameux Toucan, le premier Toucan en 1971.
Alors, le Toucan, il faut dire à nos auditeurs qui ne sont pas forcément régatiers ce que c'est.
Alors, c'était un bateau un peu révolutionnaire à l'époque parce qu'il était léger, il avait une quille assez profonde, il avait un safran suspendu derrière.
Ce que c'est que le safran. La quille, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Il y a les quillards ou alors s'il y a les bateaux à fond plat, ça, tout le monde sait ce que c'est. Mais le safran, on ne sait pas forcément ce que c'est.
C'est le gouvernail, alors.
Gouvernail, d'accord.
Oui. En fait, sur un bateau, on dit un safran, sur un avion, on dit une gouvernail.
D'accord.
Voilà. Et après, en 71, on a mis le premier bateau à l'eau. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir être à bord pour le bol d'or. Et on a gagné le bol d'or. Donc, je gagne mon premier bol d'or en 1971. J'avais 21 ans.
Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Et je crois que tu l'as gagné avec 2 heures d'avance, c'est ça?
Oui,
sur les concurrents.
Je me rappelle plus bien, mais je crois que c'était pas mal. Et puis, ce qui est génial, c'est que cette année, j'ai refait le bol d'or en Toucan, 50 ans après. Pour fêter ça. Et j'ai fait le bol d'or sur le numéro 2, que j'avais construit aussi. Donc c'était génial de faire le bol d'or sur un bateau qu'on a construit quand on avait 21 ans.
Bah oui.
Et en plus, on a gagné dans notre catégorie.
Alors, je crois que, voilà, tu as gagné dans toutes les catégories de bateaux. Je crois que ça, c'est unique hein, dans l'histoire des régatiers. Parce que en général, on est spécialiste comment ça s'appelle?
Oui,
de bateau.
Ouais, au fait, j'ai gagné dans les classes J, la jauge internationale. Alors, au fait, j'ai gagné en 5 m 50, on est 3 à bord. J'ai gagné en 6 m, on est 5 à bord. J'ai gagné en 8 m, on est 6 à bord. Et une fois en 12 m J, ça fait 20 m, 20 tonnes. Là, on est 14 à bord.
14
en fait,
à bord.
Dans 4 catégories différentes.
Et là, Et là, en fait, qu'est-ce que tu as préféré?
Tous, mais...
T'as préféré tous. Tu les as tous aimés.
Oui, parce que c'est chaque fois différent. C'est chaque fois qu'une équipe différente, c'est chaque fois qu'un bateau différent. C'est chaque fois une aventure. C'est une aventure. De gagner un championnat, c'est... Quand on est constructeur de bateaux, c'est tout ce qui est avant, c'est ça qui est important. C'est gagner un championnat, moi je dis toujours, ça se gagne au chantier. Parce que c'est les heures qu'on passe à l'améliorer, à le construire, à soigner tous les petits détails. On n'a rien de droit de casser. Donc c'est toute cette partie avant qui m'a toujours intéressé. Après, gagner la course, c'est juste de prouver ou de faire comprendre qu'on a pris les bonnes décisions à un moment donné. Les bonnes voies, le bon équipage.
Voilà, je crois que tu dis qu'il ne faut jamais économiser un seul franc, on est d'accord.
Hein, c'est-à-dire... Je ne sais pas où tu l'as entendu celle-là,
tu vois. Hein.
Oui, quand on a la chance de gagner un championnat du monde avec 1m50 d'avance sur la ligne d'arrivée, c'est sûr que...
À Cannes, tu as fait ça.
C'était à Cannes,
ouais.
Eh bien, c'est sûr que si on avait économisé un franc, on n'a peut-être pas eu 1m50.
C'est ça, oui. Donc, en fait, c'est un travail antérieur à la course. Quand on est constructeur du bateau. Et puis après, tu étais barreur.
Oui, j'étais équipier aussi, mais surtout barreur.
Ouais.
J'ai fait les deux.
Et comment est-ce qu'on choisit ses coéquipiers?
Des fois, oui, mais...
Là, je te vois faire des tas de grimaces.
Non, parce qu'en fait, bon, aussi, oui. Avec le temps, oui, je dirais que... Oui. C'est marrant parce qu'en ce moment, on est en train de faire un article sur comment faire un bon équipage. Et puis ça a commencé par il faut qu'il n'y ait pas de concurrence entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait d'égo entre nous. S'il y a des égos entre nous, dans un équipage, c'est pas bon.
Alors on parle d'égo EGO, on parle pas EGAUX, on oui, est d'accord.
Voilà. Okay. Donc il faut pas qu'il y ait de concurrence dans l'équipe. Et au moment où il n'y a pas de concurrence, tout fait que... Oui, du coup, les gens, ils ont du plaisir à être ensemble. D'accord. Partager quelque chose ensemble. C'est la question qu'on me posait, mais pourquoi tu aimes gagner ? Ben, il faut réfléchir un petit moment avant de répondre à cette question. Pourquoi on aime gagner ? Et la réponse, elle est simple. C'est pour vivre un moment intense avec une équipe.
Eh bien, on va écouter maintenant. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
On va écouter une chanson d'un anglais qui s'appelle Human. J'aime bien sa voix, en fait. J'aime bien Joe Cocker pour sa voix.
Rag and Bone, c'est ça. Ouais, Rag and Bone Man.
Ouais, voilà. J'aime bien sa voix.
Bah alors, on l'écoute ensemble. Hein.
J'aimerais bien aller le voir sur scène. J'ai pas vu sur scène, mais j'aimerais le voir.
Alors, pourquoi pas ?
Alors, on va l'écouter.
Oui.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Philippe Dur. Philippe Dur, dont on a expliqué qu'il était, on l'appelle, le seigneur du lac. 7 titres de champion du monde. Philippe, il paraît que tu as le sens du vent. Raconte-nous ça. Qu'est-ce que c'est que le sens du vent ?
Alors, le mot Seigneur...
T'aimes pas ?
Je sais pas si ça me... ça me cause. Souvent, on dit plutôt la légende.
La légende du lac.
Oui, parce qu'avec avec le nombre d'années qu'on pratique ce sport, qu'on est sur le lac, on devient plutôt une légende. Bah, écoute, vis-à-vis des jeunes, parce que quand je vois les jeunes qui naviguent maintenant, je me dis, mais ils me voient, comment ils me voient ? Comment ils me voient ?
Comme une légende.
Ils me perçoivent. Mm-hmm. Et j'essaye de me remettre, quand j'avais 20 ans, comment je voyais Louis Novera, par exemple. Alors que maintenant, moi, j'ai l'âge de Louis Novera. Novera, il est mort, il avait 72. J'ai presque son âge. Et je le voyais comme, pas une personne âgée, mais en fait, comme une légende. Mmh. Donc,
je rappelle je que tu as 20...
Alors, pourquoi ? Parce que c'est parce que tout ce qu'on a accumulé derrière nous, comme vie, comme aventure, comme résultat, je pense que c'est ça qui fait que...
Bon. Oui. Philippe, je voudrais rappeler que tu as 26 titres internationaux, c'est pas rien.
Ah, je vois que tu as fait le compte, mais oui, c'est possible. Ouais. En fait, j'ai été 10 fois champion du monde. Ça, c'est pas mal déjà.
C'est
déjà,
pas mal.
Déjà à 8, j'étais pas mal, mais à 10, je deviens effectivement...
La légende du lac.
Peut-être une légende.
Alors, tu as navigué sur toutes les mers du globe, à peu près ?
Ouais, pas mal.
Tu es allé en Australie, tu es allé un peu partout.
Australie, Pacifique, Atlantique. J'ai même été en Antarctique avec Mike Horn.
Raconte-nous ça.
Ah, oui, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir avec une équipe, amener Mike Horn en Antarctique.
C'était à quelle date à peu près ?
C'était en 2016.
2016, ah, oui. C'est pas si vieux.
Donc c'était intéressant parce qu'on est parti du Cap de Bonne-Espérance et puis on a traversé en Antarctique, on a mis 18 jours. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu navigues d'abord 8 jours où autour de toi il y a de l'eau. Et puis après, tu arrives dans la mer qui est gelée. Ça s'appelle la banquise, c'est de l'eau salée qui est gelée, et là tu mets 10 jours pour arriver en Antarctique, parce que l'Antarctique c'est quand même une terre. Mmh. Il y a 3000 mètres de glace dessus, mais c'est une terre. Donc là c'est 10 jours de...
Il a pour voir le vent, le sens du vent, il n'y a pas de risée.
Il n'y en a plus.
Ouais, oui, alors tu
non, il n'y a comme... plus, t'es au moteur.
Ah, t'es au moteur.
T'es au moteur. Et puis en plus tu vois que du blanc autour de toi, tu ne vois pas l'eau. Donc tu es obligé d'avoir un gars qui est dans le mât à 25-30 mètres de haut. Et c'est lui qui dit où il faut passer, parce que lui, il voit. Toi, tu vois pas, tu vois du blond. Et puis voilà, donc c'était une jolie expérience. Mais moi, après, la question que je me posais, mais pourquoi tu es parti là-bas, c'était pour trois choses. La première chose, j'adore les oiseaux, et je voulais voir une fois ces fameux albatros voler. Parce qu'il n'y a que là-bas que tu les vois.
Et tu les as vus.
Et je l'ai vu. Assez, deux jours après que tu pars, tu vois les premiers. C'est extraordinaire. Puis plus tu descends, plus ils sont grands. J'ai vu des 2,80 m d'envergure. Les plus grands font 3,10 m. Mais quand tu vois ces oiseaux voler par 80, 100 km à l'heure devant, et avec une... Pour moi, c'est les plus beaux pilotes du monde. Les pilotes, parce que ce sont des pilotes. Comme ils arrivent à voler à ralo, au-dessus des vagues. Souvent, on m'a dit, ils se posent jamais, c'est faux, ils se posent, ils posent, ils redécollent, c'est pas un souci pour eux. Et je voulais voir ça. La deuxième chose, je voulais voir une fois ces grands icebergs qui se sont détachés de l'Antarctique et qui partent dans le nord pour fondre. Faut pas oublier qu'un iceberg, là, c'est...
Ça dérive, ils dérivent.
Ils dérivent, ils partent dans le nord parce qu'ils sont au sud et ils mettent entre 5 et 7 ans pour fondre. Et je voulais les voir et quand tu en vois un...
C'est quoi, c'est comme des murs de glace ?
Ouais, c'est monstre, immeuble. C'est des immeubles de plusieurs tonnes.
Des immeubles sur l'eau.
Et quand on dit, bah, toi, celui-là, et ça fait 5 ans qu'il dérive. Ah bon, d'accord. Et puis, qu'il est à 1000 km de l'Antarctique, ça fait quand même bizarre. Mais moi, je voulais voir ces grands... J'adore la glace. J'aime la glace. Donc, je suis attiré par la glace. Donc, je voulais voir ces grands icebergs qui dérivent et qui partent dans le nord. Et puis, la troisième chose, je voulais une fois naviguer dans l'océan Indien. Ces fameux 40e rugissantes, 50e hurlantes, je voulais faire une fois ça dans ma vie. Je voulais une fois prendre une monstre dépression de 50, 60 nœuds pendant plusieurs jours. Et ça, on l'a fait, puisqu'après l'Antarctique, on est parti, puis on était en Australie. Donc j'ai fait les 40e et 50e.
Et là, alors, tu t'es où dans le bateau ? Comment ça se passe, là ? dans les rugissants, là. Raconte-nous ça, décris-nous ça.
Quand t'as 60 nœuds, t'es le plus possible dedans. Hein, ça, c'est
ouais,
sûr.
C'est ce que je pensais. Hein. T'es calfeutré à l'intérieur.
Mais comme t'es au portant, ça va. T'es pas contre
au
le vent,
portant,
tu vas avec.
Ouais, d'accord,
donc
vas
ça
avec.
Va, mais ce qui est extraordinaire, c'est les vagues, c'est le bruit, c'est la force du vent, c'est fabuleux. Quoi. C'est, il faut vivre. C'est,
ouais, alors,
je voulais le vivre une fois.
T'es plus au moteur, là.
Oh là là, à la voile.
T'es à la voile.
Là, là, à la voile.
D'accord, c'est le bruit dans les voiles dont tu parles, alors.
Alors, c'est quand elles font du bruit, c'est pas bon, c'est qu'elles claquent, donc
elles
sont mal réglées.
Il faut pas.
Mais...
T'es pas près du vent, là. Pas la laisser faciller.
Pas bon.
Non.
Au fait, tu réduis beaucoup, hein, tu diminues la voile. De...
Ouais.
Tu mets ce qu'il y a besoin.
Alors, t'as quoi? T'as juste...
Ouais, t'as deux, trois... on avait deux mâts. Donc, derrière, il n'y a pas de voile sur le mât derrière. Puis devant, t'as un petit bout de foc,
t'as
et puis
trois rides
dans la grande voile, et puis tu t'accroches.
Et alors à l'intérieur, ça bourlingue pas mal.
Alors dedans, oui, il faut se tenir. Oui, c'est.
Alors on fait quoi quand on est là-dedans? On fait.
Bon, le bateau, il faisait quand même 30 mètres, 100 tonnes.
Ah oui.
On était 11 à bord, donc ça va.
11 à bord.
La cuisine.
Vous jouez aux cartes à l'intérieur? On ne peut pas parce qu'il faudrait des cartes magnétiques pour qu'elles se sauvent.
Non, tu prends tes cartes.
Oui.
Tous les temps de temps. Et.
T'as des hublots que tu vois quelque
oui,
chose
oui,
ou...
oui, oui, oui,
ouais.
Oui, oui. Parce que dans la cabine de pilotage, on avait un panorama sur tout.
D'accord, ouais.
Donc, non, une visibilité extraordinaire. Sauf quand t'es dedans, là, tu vois.
Ouais, tu vois
plus
rien.
Chose, mais il y a des voies quand tu dors.
Et qu'est-ce que tu manges, alors, pendant ce temps-là? Ça a duré combien de temps, ce voyage?
Pour faire le... Quand on est parti de l'Antarctique pour aller en Australie, on a mis 24 jours.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu manges, là? Tu peux pas faire la cuisine, tu te renverserais tout sur les pieds.
Oui, oui. Ben, en fait... Non, on était assez bien organisés.
C'était bouillante.
On avait comme on pouvait. Mais c'est sûr que quand tu manges à table, tu te cramponnes à l'assiette, hein, c'est sûr.
Tu te cramponnes à l'assiette?
Oui, tu te cramponnes à l'assiette, toi.
D'accord, oui, je vois. C'est un peu comme Pesquet dans sa capsule.
Ouais, exactement. Mais là,
t'as quand même pas d'apesanteur.
Non, mais là, tu te cales. Tu sais, au bout d'un moment, tu commences à apprendre où tu peux te caler.
Mais t'as des poignées pour te tenir, t'as quoi?
Ouais, il y a.
J'ai du mal à imaginer l'intérieur là du bateau.
Mais en fait, c'est un bateau, c'est 20 degrés. Quand il gît tout le temps, il bouge tout le temps. Un bateau, quand il navigue,
il roule.
Oui, il roule. En fait, il fait 5 degrés à gauche, 20 degrés à droite. 5 degrés à gauche,
je viens de garder sa bouche. Faut pas avoir mal au cœur.
Au bout d'un moment, tu t'habitues à ça.
Moi, rien que tu racontais ça.
Tu connais les petits endroits où il faut se caler. Quand tu vas manger, tu sais que tu vas te mettre là. Et puis, tu fais attention, quoi.
Ouais, bon. Bah écoute, on va écouter de la musique. Et puis, ça tombe bien, regarde ce qu'il dit Florent Pagny.
Bah, tu vois, Florent Pagny, j'y vais. Bah, j'y suis allé.
On écoute.
Radio Cité Genève. Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux. J'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera.
Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte.
Ta vie tient dans mes veines. S'il fallait traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irais
retrouver mes rêves.
Vivez.
et dans chacun de nos pas.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Philippe Dur. Philippe Dur, tu nous as déjà beaucoup fait voyager, là. On a même voyagé dans les glaces, on a côtoyé les icebergs, on est dans le bateau, là, on roule avec toi, on s'accroche à notre assiette avec toi. Mais tu ne fais pas que ça. Tu as aussi collectionné, tu as aussi restauré, retapé et collectionné des vieux bateaux. Parle-moi de ça. Sacrée aventure, ça aussi, hein.
Alors, moi, j'ai... C'est marrant, le collectionneur, c'est quoi un collectionneur?
C'est quelqu'un qui a plusieurs objets d'un même type.
Ouais, exactement. Mais pourquoi?
Ah, c'est une bonne question. Tu sais, alors je vais te répondre, moi, parce que j'ai été commissaire-priseur,
oui,
je sais ce que c'est qu'un collectionneur. C'est une pathologie, tu
d'accord,
vois.
D'accord, ouais.
Et qui ne guérit jamais. C'est pas la peine d'aller chez le médecin.
Pourquoi? Moi, je me plains ces temps que j'ai trop de choses. Mais après, je me dis, mais pourquoi j'ai tous ces bateaux? Parce que finalement, j'arrive pas à naviguer sur tous. Donc, mais je crois que le collectionneur, son plaisir, c'est de l'avoir, en fait.
De le posséder.
De le posséder.
Et puis, peut-être de l'entretenir aussi, de le bichonner.
Oui.
Non? En ce qui concerne
exactement.
Les bateaux.
Oui, oui. Alors, j'avais un ami, il m'a dit, mais moi, je suis pas un collectionneur, mais... Ce qu'il aime, c'est l'entretenir, effectivement. C'est l'entretenir, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on navigue sur des bateaux qui sont de 1937. Je crois que mon plus vieux...
Tu as navigué sur un de 1913, je crois.
Ah oui, Elena, qu'on a restauré, oui, qui navigue encore. Oui, qui navigue, oui.
1913,
c'est... effectivement. Et nous, on n'est que de passage sur cette terre. On n'est que de passage. Et un jour, ben, on va s'en aller, et puis on mettra nos cendres dans le lac.
Ah, tu veux te faire incinérer?
Oui.
Ah bon? Bon.
T'aimes pas?
Non, moi je préfère être boulotté par les asticots.
Ah non, 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 pour moi. Non. Moi je sais exactement où on va me mettre. Hein. D'ailleurs, j'explique ça à tous les copains, d'ailleurs.
Ah bon?
Le jour où je meurs, vous me mettrez là.
Ah.
Et il y a plein de gens qui le savent maintenant. Et les bateaux restent. En fait, tous les bateaux que j'ai restés.
Mais les objets nous survivent en général.
Oui, ils nous survivent. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que... Alors, moi, ma passion, c'était de restaurer ces bateaux, de les entretenir, et un jour, quand je serai plus là, peut-être qu'on dira, c'est grâce à lui qu'il y vit encore.
En fait, tu as fait une sorte de petit musée de la voile suisse, c'est ça?
Ouais. Quand on meurt, il paraît qu'il y a deux générations qui se souviennent de vous. Après, c'est fini.
Mmh.
Deux générations.
Sauf si on a laissé une œuvre. Sauf si on a laissé une œuvre.
Oui, exactement. Oui.
Est-ce que tu as le sentiment, avec ton petit musée de la voile suisse, jour laisser une œuvre?
Non, je pense pas.
Tu penses pas?
Non.
Ce petit musée de la voile suisse, il y a des gens qui viennent le visiter ou c'est pour toi, c'est pour ton bonheur et ton plaisir?
Alors, bon, j'ai pas un musée, hein, j'ai des bateaux, ils sont sur l'eau, mes bateaux, ils naviguent.
Oui, oui, non, mais ce que j'appelle le musée de la voile suisse, c'est que tu as une série de bateaux de toutes les époques qui représentent un peu l'ensemble de ce que les Suisses ont construit en bateau léger.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà.
Alors les gens, oui, je navigue avec, vous faites toujours, j'aime bien les prêter, je suis assez prêteur. J'adore voir un bateau naviguer que je prête, que j'ai prêté. J'adore ça.
D'accord.
Parce que je sais que les gens, ils sont heureux. Mmh. Et c'est ça qui est important, c'est de rendre les gens heureux.
Et puis tu le vois sur l'eau. Tu le vois
de
loin.
Oui, tout à fait. Oui.
Tu le suis à la jumelle.
Oui, mais quand je ne les vois pas, alors ce que j'aime bien, en fait, le lundi, il y a les gens qui me téléphonent. Ah, j'ai vu ton bateau naviguer. Et moi, ça me rend heureux, ça.
Ouais. Parce que... Tu as les yeux qui brillent. Moi, j'adore quand tu as les yeux qui brillent comme ça, puis un large sourire. C'est dommage qu'il n'y ait pas la télé.
C'est extraordinaire, j'adore ça.
Ouais. Ouais. Alors, il y a combien de bateaux dans ce...
Je crois que j'en ai 7, je crois.
7, ouais. Oui, c'est pas mal quand même.
Ouais,
tu peux les décrire ? Tu peux nous dire ce que c'est ?
J'ai un 6,50 m, ça fait 6,50 m,
oui,
qui est 1934, qui appartient à un monsieur Mercier de Lausanne. Et après, c'est son fils qui l'a hérité. Et après, Pierre arrive à la retraite. Donc, dans la famille Mercier, plus personne... veut naviguer ou s'en occuper, donc il y a une réunion de famille, et puis le papa avait dit ce bateau ne sera jamais à vendre, alors donc il fallait trouver quelqu'un pour l'hériter, et la famille a décidé que l'héritier de ce bateau c'était moi.
Bravo.
L'avantage c'est que j'avais un chantier naval et qu'ils savaient qu'ils allaient, j'allais bien l'entretenir,
c'est
donc
ça.
J'ai hérité de ce bateau de la famille Mercier.
Et puis les autres bateaux?
Et puis voilà, donc j'ai 6,50 m, qui est soi-disant le bateau qui a fait le plus de fois le bol d'or. Et voilà. Après, j'ai un 5,50 m qui était le dernier Iliam d'André Firmenich, Iliam 16, qui a été construit en 64, que j'ai pas remis à l'eau encore, mais j'ai presque fini la restauration. Après, j'ai un 6 m, le 1951, l'Astrey, mon grand amour, avec lequel j'ai navigué le week-end passé.
Ah, tu as des préférences dans tes enfants, là?
Oui. Oui, 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 tout à fait. L'Astrey, je pensais que...
L'Astrey.
C'est un bateau que
c'est un joli nom.
Il y a 20 ans, un franc. Il avait coulé dans un port en Bretagne, et je l'ai racheté, je l'ai ramené en Suisse, j'ai mis 5 ans pour le restaurer, et j'ai fait un des plus beaux bateaux du lac.
Wow.
Ça fait 15 ans que j'en viens avec, j'ai mis 5 ans pour le refaire. Après, il y a le 6 m junior, ça c'est un 6 m, mais il est en plastique, que j'avais racheté...
Un bateau en plastique, alors t'as un Tupperware dans ta collection? Comment ça se fait?
Bon, j'ai quand même un plastique, mais c'est avec celui-là que je suis plusieurs fois champion du monde, que j'avais racheté en 1985 ou 84 à Edmond Rothschild, parce qu'il était tombé sur la route et il était cassé. Et
comment il est tombé? Il est tombé du camion alors?
Oui, il est tombé du camion et il était cassé, et Edmond m'a vendu pas cher à l'époque,
ouais.
Et puis je l'ai réparé pendant l'hiver, et en 85... Donc une année après, je vais au championnat du monde à Cannes, et là, on gagne le championnat du monde.
Pas mal, pas mal. Il a dû regretter, Edmond, de ne pas te l'avoir...
Il n'était pas content, parce que le soir même, j'ai revendu le bateau.
Aïe.
Et puis, il est venu le lendemain, il m'a dit « Bravo, Philippe, je te félicite. Mais j'ai appris que tu as vendu le bateau. » J'ai dit « Ben oui, il faut bien que je rembourse ma mère. Elle m'avait prêté de l'argent pour le racheter. » Il m'a dit « Ah bon, ben, dorénavant, tu vas naviguer avec mes bateaux. » C'est là qu'il fait construire le fameux 8 mètres Gitana 60 pour ses 60 ans. Et en 86, on gagne le championnat du monde avec. C'était son cadeau.
Ah, pas mal ça aussi. Voilà, ça c'est tous tes bateaux. Non, on en a oublié deux là.
Oui, j'ai fait le tour là, c'est pas mal.
T'as fait le tour, voilà. Oui.
Donc c'est les importants, disons.
C'est les importants. Alors, on va maintenant... Ça tombe bien,
oui.
Ça tombe bien.
Vas-y, Florent Piani, j'adore. Faut écouter les paroles surtout.
Eh ben oui, mais non. Ah, c'est J'y vais. Non, on l'avait déjà dit J'y vais. Non. C'est
en fait,
plus Florent Pagny, on l'a déjà écouté. C'est Joe Cocker, N'oubliez jamais. Ça tombe bien pour tes vieux bateaux, N'oubliez jamais.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own
forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree. But who's getting in the way? N'oubliez jamais. Songs. Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. Someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree, but rules get in the way. N'oubliez jamais. What is this game? Searching for love or fame? It's all the same. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Je suis avec Philippe Dur, Philippe Dur dont vous avez entendu qu'il a tellement de casquettes, de restaurateur de vieux bateaux, de créateur de bateaux, constructeur de bateaux, de navigateur au long cours, de régatier couvert de trophées. Et maintenant, Philippe, je vais te poser encore une dernière question. Après avoir parlé de ta collection de tes chers vieux bateaux, je me souviens que dans l'émission que nous avions faite ensemble, il y a donc sur les Monts Bleus, il y a longtemps maintenant, je t'avais posé une question, je t'avais demandé quel serait ton rêve. Et je crois que ton rêve, tu l'as en partie réalisé. À l'époque, tu m'avais dit mon rêve. Une maison, une vieille maison au bord du lac, à laquelle je redonne vie. Avec un port devant, tu avais parlé du port pour avoir tes bateaux devant toi et les faire naviguer sur l'eau. Où est-ce que ce rêve, tu l'as réalisé?
Alors, effectivement, j'en suis pas loin, puisque quand on va tranquillement, on arrive à la retraite, il y a plein de gens qui vous posent la question, mais au fait, tu vas faire quoi quand tu seras à la retraite?
Ah, mais c'est un mot horrible, la retraite.
Alors, j'aime pas le mot retraite.
Bah non.
Non, bah non. Je préfère lire neutre, par exemple. Je me mets au neutre.
Ah, au neutre. Ah, ça, c'est une façon de penser.
Oui, c'est au neutre. Ça veut dire qu'on va ni en avant ni en arrière, mais on se met au neutre. Faut se poser un petit peu.
Réfléchir. Non, mais se poser, on a des millions d'années pour dormir sous la pierre et
oui,
se poser.
C'est vrai.
Bon, alors là, t'es pas au neutre, là.
Non, en retraite, pas au neutre. C'est non, j'aime pas.
Non. Mais tu fais autre chose. C'est une autre vie. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ton autre vie?
Voilà. Alors, j'ai eu plein d'idées, mais...
Non, mais attends, le chantier, tu l'as plus, alors?
J'ai plus de chantier.
Tu l'as vendu ?
Oui.
Et il y a quelqu'un qui a repris ?
Non, il était démoli.
Le chantier était démoli, oui. Cet endroit mythique qui était magnifique.
C'était intéressant parce que les gens qui me l'achètent, ils me posent la question, mais tu veux travailler encore combien de temps ? Et j'ai dit 3 ans. Eh bien, les promoteurs, ils m'ont dit, dans 3 ans.
Ah, c'est sympa, ça.
Parce qu'ils savaient bien que j'avais encore 2-3 trucs à
faire. Ah, mais moi, je me souviens, il y avait l'échelle encore avec le petit atelier que tu avais au-dessus de l'atelier quand tu étais gamin et que tu construisais.
J'avais
moi, je me souviens de ça.
Fabriquer mes dériveurs, là-haut.
Oui,
ouais,
je me souviens. Alors, donc, ça n'existe plus. Il y a des promoteurs qui sont passés par là et il y a des immeubles sur le chantier.
Ils sont en train de construire en ce moment.
D'accord.
Parce qu'en plus, j'ai pas travaillé 3 ans, j'ai travaillé 5 ans.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que d'abord, ils n'ont pas eu l'autorisation tout de suite, puis après, il y a eu le Covid, donc tout a été retardé.
D'accord.
J'ai pu faire 5 ans de plus que...
D'accord. Alors maintenant, le chantier, c'est terminé. Est-ce que tu as trouvé ta maison ?
Alors, oui, j'ai trouvé. En fait, j'ai une amie qui a acheté une maison au bord de l'eau, et il y a un port.
C'est une maison 1900, comme tu voulais, ou c'est une maison...
Oui, c'est une vieille maison. Oui,
c'est
une maison qui appartient à la famille Birkitt, qui fabriquait les fameux moteurs hispano-suiza.
C'était des... Oui. J'ai connu les Birkitt, figure-toi. Ils avaient une maison dans le sud de la France, à Capferrat, qu'ils ont vendue à des gens que je connais.
Donc, c'est les premiers au monde qui fabriquent des moteurs en aluminium. C'est pour ça qu'ils ont équipé les avions dans la guerre de 14-18. Et après, ils ont fait des moteurs pour les voitures. Donc... Voilà, c'était hispano-suiza. Et puis cette propriété était vendue. Et puis la personne qui l'a achetée m'a dit, est-ce que tu pourrais t'occuper du port ? Et puis là, je me suis dit, ça tombe bien, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être garde-port.
Mais dans garde-port. Un port où il y a...
Oui.
Alors c'est un nouvel...
Mais au fait, attention, garde-port dans un port où il n'y a pas de bateau. Oui, parce que au fait, quand il n'y a pas de bateau, c'est plus simple.
Non mais attends, tu veux pas me dire que tu gardes un quai vide ?
Oui. Mais c'est idéal d'être garde-port où il n'y a pas de bateau.
Non mais attends, et tes bateaux ils sont où alors ?
Bah attends, donc du coup on a restauré le port, on a refait tout beau, on a restauré le phare à l'intérieur, on a remis des barrières, on a modifié, c'est magnifique.
Et il y a la maison.
Il y a la maison.
Tu t'es pas trop occupé de l'intérieur de la maison, si je comprends bien, tu t'es davantage occupé de l'extérieur.
Oui, je me suis occupé du port. Après, il y a le garage où il y avait un canot moteur dedans, qui est un bateau qui a été construit par la famille Birkitt.
D'accord.
Qui s'appelle le capitaine Guilmer, avec un moteur hispano-suiza. Et le capitaine Guilmer, donc, c'est le premier français qui a reçu le titre de as de l'aviation.
Oui.
Guilmer était
un... Guilmer, oui, bien sûr.
Le capitaine Guilmer, il est mort à 24 ans en combat aérien, après avoir descendu quand même 53 avions. Donc après, ils ont construit un canot moteur en France, qui existe toujours, 1920, après la guerre, et ils l'ont appelé le capitaine Guilmer. Et ce bateau, il est là-bas,
dans la
propriété.
Alors, est-ce que c'est un ajout à ta collection ?
Non, il n'est pas à moi le bateau. Mais par contre, on l'a enlevé du garage parce que pour naviguer avec, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut venir le mécanicien, le pompier, au cas où on prend feu parce que c'est un vieux moteur et c'est spécial, mais on l'a.
Et il est en bois aussi ?
Oui, je pourrais te le montrer. Faut que je te
Je viendrai voir.
Puis du coup, la personne qui a la propriété, elle a racheté le dernier bateau moteur parce que j'ai fait aussi des bateaux moteurs que j'ai restaurés. Dernier bateau. L'a racheté, puis on l'a mis dans le garage. Et puis moi, je regardais ce port avec mon bateau qui est dans le garage. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'était quand même triste d'avoir un port sans bateau. Et du coup, j'ai mis un de mes voiliers dedans. Le Nausicaa, justement. Donc je suis garde-port d'un port où il n'y a qu'un bateau, le mien.
T'habites pas dans la maison ?
Pardon ? Non, il n'y a personne qui habite.
Ah, il n'y a personne qui habite ? Et ton rêve, c'était quand même qu'il y ait des copains qui viennent habiter la maison.
Oui, alors ça, c'est encore la musique d'avenir. Il faut une chose après l'autre.
Donc ça, c'est le futur rêve.
C'est le futur rêve.
Et à ce moment-là, est-ce que tu changeras de port ? Qu'à de le dire ?
Non, mais une maison au bord de l'eau, j'aurais jamais, mais pourquoi pas ?
Pourquoi
J'ai déjà
pas
un bout de port et un bout de bateau, c'est bien.
Tu vas peut-être trouver quelqu'un qui a une maison et puis qui va, je sais pas, te donner un bout de la maison.
Écoute,
et puis qui va avoir le bonheur de voir les bateaux.
On va en reparler dans quelques années.
Tu as l'air bien malicieux. C'est quand même formidable d'avoir des rêves. Il faut garder des rêves, tu es d'accord ?
Mais moi, j'en ai toujours. Mon père me disait, tu sais, j'ai dit à mon père, c'est quand qu'on est vieux ? Je demande à mon père, mais il dit, c'est simple, c'est le jour où tu n'as plus de projet.
Probablement, oui.
Mmh. Et ben, c'est là que tu es vieux. Et ben, mmh. Mon père, il avait toujours des projets. Toujours. Il est mort à 90 ans.
C'est pas mal.
Pas mal.
Ouais. Aujourd'hui, c'est pas vieux.
Et des projets, moi j'en ai tout plein.
Alors les autres projets, tu peux en parler un petit peu ?
Oui, oh là là. Alors moi j'aime bien encourager les jeunes, par exemple, m'occuper des jeunes. J'adore les filles qui lancent des projets, par exemple, traverser l'Atlantique en solitaire. Moi je suis fasciné par les femmes qui font ce sport. Au Vendée Globe, elles sont quand même 6 à partir au Vendée Globe en solitaire, faire le tour du monde, elles reviennent avec le bateau. Non, c'est juste extraordinaire. Et moi, j'ai été dans les mers du Sud. J'ai vu comment c'est. Eh ben, tu sais quoi? J'irai pas tout seul. Alors moi, je suis très admiratif. Alors donc, chaque fois qu'il y en a une qui a envie de redémarrer là-dedans, moi, je suis la première à être derrière et dire...
Alors, tu l'aides en quoi? Tu aides à la former, tu...
Ouais,
tu...
au fait, essayer de trouver des contacts, pour trouver des financements. Bon, quand j'avais le chantier, je mettais mon chantier à disposition pour qu'ils puissent venir travailler sur le bateau. Voilà, au fait, moi j'ai quand même un carnet d'adresses qui est pas mal. Hein. Et puis, si je peux faire profiter ces jeunes qui veulent se lancer là-dedans, eh ben pourquoi pas.
Et plutôt des filles, hein. T'aimes moins aider les garçons? Non, c'est une question.
J'aime bien les filles.
Non malicieuses.
Oui. Alors ouais, parce que on me pose la question aussi, j'ai des clients. J'ai dit oui, mais j'ai pas de clients en fait, j'ai que des clientes. Parce que je connais pas mal de dames qui ont des bateaux. Et puis à elles, j'arrive pas à leur dire je m'occupe plus de ton bateau. J'arrive pas. Donc quand t'as une cliente, mademoiselle Ray, qui est cliente chez moi pendant 45 ans, qui a 2 canots de pêche. Maintenant, elle a 86 ans, je n'arrive pas à lui dire, mademoiselle, j'ai toujours appelé mademoiselle, je n'arrive plus, je veux plus vous m'occuper de bateau. Non, non, c'est impossible. Tu fais ça jusqu'à que tu puisses plus, c'est... Mademoiselle, je m'en récupérerai toujours.
Et puis, mademoiselle, elle navigue toujours,
ouais,
c'est 86 ans.
À la voile. Elle pêche, elle fait de la voile, elle se baigne.
C'est pour ça.
Ouais, et c'est juste extraordinaire.
Elle doit être en pleine forme.
Alors à 86 ans, elle commence à avoir de la peine à monter à bord, mais quand je lui livre le bateau, on fait des exercices. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Jusqu'à que...
Faudrait un palan pour la mettre dessus.
Ouais, non, on n'en est encore pas à ce stade, mais on n'en est pas loin. Et j'ai des dames qui ont des bateaux. On va en voir une tout à l'heure d'ailleurs. Et elles sont contentes quand je m'occupe de leur bateau, qui fonctionne et qu'elles puissent naviguer encore. Ça, c'est, j'adore ça.
Alors, je me suis laissé dire aussi que tu avais fait gratuitement pour restaurer un vieux bateau, 8000 heures que tu avais offertes, 8000 heures de travail.
Ah oui, ça c'est... oui, c'était Elena. Et donc...
Elena, ouais, c'était quoi? Alors, décris-nous ce bateau.
C'est un bateau qui était au Guatemala, qu'on a racheté un franc aussi, un bateau de 13 mètres de long, qui est 1913. Et à l'époque, je rêvais de restaurer un très vieux bateau. Et c'était celui-là. Donc on a traversé l'Atlantique avec, on a remonté le Rhône, il est arrivé à Mâcon, on l'a ramené à Versoix. On pensait mettre 5 ans pour le restaurer, on a mis 10. Et tout le monde nous disait, vous êtes fous. Puis maintenant que ça fait 15 ans qu'il navigue, je me dis, mais finalement, ça passait vite ces 10 ans. C'est tellement loin ça. Ça passait vite. Et moi je suis content d'avoir fait ça. Alors après... Dans ma tête, je me dis, mais t'es un peu fou de faire des trucs pareils. Alors, il fallait que je voyais des gens plus fous que moi. Alors pour ça, j'allais dans les meetings d'aviation. J'adorais aller à la Ferté-Alais pour voir les vieux avions. Et là, il y avait des hommes qui ont mis 20 ans pour restaurer un avion, pour le faire voler. Et ça me faisait du bien de voir ces gens qui étaient encore plus fous que moi. Donc, voilà.
Mon cher Philippe, tu sais qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. Ça passe trop vite avec toi. Tu nous fais naviguer. Tu nous racontes beaucoup de choses.
Écoute,
toi, la légende du lac.
Écoute, alors, je pourrais raconter des heures, si tu veux.
Je sais.
Des heures.
Tu vas revenir.
Mais tu vas écoute, revenir. Si tu m'invites, il n'y a pas de souci.
Bah oui.
Moi, j'ai le temps maintenant. Je suis au neutre.
Non, t'es pas au neutre. T'es dans une autre vie. Alors, qu'est-ce qu'on écoute pour terminer?
On va écouter Johnny.
Diego.
Diego.
Libre dans
sa tête.
Faut bien
écouter les paroles. Parce que cette chanson a une histoire, écrite par Michel Berger, et qui l'a chantée. Et après, il a demandé à France Gall de la chanter. Donc, Et il s'est dit à un moment donné, mais il faut qu'elle monte d'intensité, et on va demander à Johnny s'il est d'accord de la chanter. Et c'est Johnny qui a fait que cette chanson est devenue complètement mythique et très forte, grâce à la puissance de la voix de Johnny. Il faut écouter ça, c'est juste fou.
Alors toi Philippe, la légende du lac, tu es libre dans ta tête.
Alors c'est exactement ce que dit Johnny. Voilà. Et moi c'est ce que j'essaie de me dire souvent, presque même tous les jours. Reste libre dans ta tête.
Je crois que tu l'es Philippe. Merci beaucoup pour être venu à ce micro. On va te redonner rendez-vous dans pas longtemps pour connaître la suite des aventures, parce que je crois qu'il y aura sans arrêt des aventures avec toi. Et puis on remercie aussi Olivier Steinmetz, notre réalisateur.
Oui, merci Olivier.
À bientôt Philippe, à bientôt pour d'autres aventures.
Mais tout à fait, à bientôt.
Au revoir.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort.